Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des femmes combattantes kurdes au sein du Parti des travailleuses et travailleurs du PKK. Pour ce faire, nous recevons Somaye Rostanbour. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste du féminisme kurde, vous êtes chercheuse au Centre de recherche sociologique et politique de Paris de l'Université Paris 8, plus connue sous le nom de CRESPA, et vous êtes enseignante à l'Université de Reims. Donc on avait déjà reçu votre collègue Fatemi Karimi qui nous avait parlé de la place des femmes kurdes au sein du Komala, un parti kurde d'extrême gauche actif en Iran. Alors certes, c'est au sein du Komala qu'émerge pour la première fois la figure d'une femme kurde combattante, mais c'est le PKK qui popularise massivement l'image des femmes kurdes combattantes. Donc avant toute chose, est-ce que vous pouvez... Enfin, on va se tutoyer, du coup, je vais pas faire semblant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le PKK et quels sont ses objectifs?
Très bien, merci beaucoup. Du coup, le PKK, c'est un parti politique kurde qui est né en Turquie dans un contexte de la violence brutale de l'État turc contre les Kurdes. Du coup, c'était dans les années 78, mais à cette époque-là, même ça a commencé bien avant, dans les années 60, même 50. Du coup, il y avait le mouvement étudiant qui était actif, mais c'était les Kurdes qui étaient surtout actifs dans le mouvement de gauche en Turquie. Mais au bout de moment, ils ont compris que du coup, la question kurde n'était pas reconnue même parmi les révolutionnaires gauche turcs. Et surtout après le coup d'État des années 80 en Turquie, c'est à partir de là où le PKK il est bien construit avant, mais c'est après le coup d'État où on commence vraiment une nouvelle phase de combat révolutionnaire contre un État brutal, violent. Du coup, c'était un mouvement révolutionnaire marxiste-léniniste et bien sûr nationaliste, dans le sens où il cherchait un État unifié pour les Kurdes de quatre parties de Kurdistan. Du coup, cela a changé à partir des années 95. Avec le changement idéologique au sein de parti, avec c'était aussi lié au contexte mondial où on n'est plus dans la phase de hégémonie du marxisme, etc. Du coup, l'objectif principal de PKK au départ, c'était vraiment de lutter contre ce qu'ils appelaient le colonialisme interne. En parlant de l'État turc vis-à-vis de la région kurde de Kurdistan de la Turquie. Du coup, à travers de ça, ils cherchaient comme solution du coup de créer un État kurde socialiste. Du coup, c'était un mélange des idées marxistes-léninistes, mais aussi nationalistes, pour pouvoir créer un État kurde en faveur des droits des Kurdes. Parce qu'il faut savoir que, juste pour vous mentionner quelques exemples, les Kurdes, ils n'avaient pas le droit de lire, écrire en langue kurde. Même certains ils étaient punis en parlant kurde chez eux. Et on sait que pour l'État turc, les Kurdes qui sont 20% de la population, ils n'existent pas. Ce sont les Turcs de la montagne, ce qu'on les appelait. Après, on a commencé de les appeler les Turcs de l'Est, etc. La région de Kurdistan, ça n'existe pas pour l'État turc et la population kurde non plus. Du coup, c'était vraiment un État qui a été basé sur une idéologie nationaliste turque et très centraliste au niveau économique. Et les Kurdes, ils étaient toujours considérés comme arriérés, comme la population le plus, on peut dire, dangereux de pays aussi, et complètement ignorés. Et c'était aussi une revendication culturelle et politique en même temps qui a donné cette place au PKK parmi la population kurde.
Tu me disais en off, avant qu'on débute cet entretien, que tu parlais plus facilement du mouvement de libération kurde que du PKK. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Oui, il y a deux mots différents quand on parle dans la sociologie des mouvements sociaux, parce que en fait, quand on parle de PKK par des travailleurs de Kurdistan, on est plutôt dans l'explication d'une organisation armée. C'est une organisation armée, mais c'est en même temps un mouvement populaire très masse. C'est-à-dire, on a des millions de sympathisants, des millions de gens qui adhèrent à ce mouvement de différentes manières au Kurdistan, même pas en Turquie, seulement en Turquie, aux différentes parties du Kurdistan dans la région du Moyen-Orient, Proche-Orient, mais pas que non plus aux diasporas aussi. Du coup, tout ensemble, on voit quand on parle de mouvement et pas juste l'organisation. Déjà, au niveau du contrôle de l'organisation sur l'ensemble de mouvements, on voit que le comité central de l'organisation, il n'est pas le seul auteur, on peut dire, le seul groupe, le seul personne qui peut contrôler tout l'espace kurde et toute la politique de l'espace kurde, y compris la politique féministe. C'est beaucoup plus large que ça. Et on voit les contradictions aussi. C'est-à-dire un mouvement, on peut le trouver des contradictions, alors qu'au sein d'une organisation, c'est plutôt homogène. Et il faut le garder homogène, peut-être dans certains sens, pour qu'on puisse avancer dans la lutte armée, au sein d'organisations, surtout le PKK comme une organisation assez hiérarchique, armée, etc. Il a besoin de cette cohérence, cette homogénéité. Alors quand on parle de mouvement kurde, là, on voit beaucoup de contradictions. Et sur la question féministe, c'est clairement un mouvement plutôt qu'une organisation.
Alors toi, dans tes travaux de recherche, hein, dont une partie, un résumé a été publié dans un numéro d'études kurdes et qui va être publié ultérieurement sous forme de livre. Voilà, on vous fera part de la date une fois que ce sera effectif. Toi, tu as identifié trois phases de mobilisation. Est-ce que tu peux nous parler de cette première phase de mobilisation que tu situes entre 1978 et 1990?
Oui, du coup, c'était la première phase après la fondation de PKK. Et cette première phase, c'était une phase de mobilisation et où on a très peu des femmes qui ont été finalement impliquées dans la lutte armée, même au sein de l'organisation. On a deux femmes qui étaient présentes le jour de création du PKK, mais du coup, le ex de Öcalan, Fatima, et aussi Sakine Canses. Mais au-delà de ça, il y avait très peu la question des femmes. Elle était presque absente dans cette première phase. Et c'était le patriotisme qui était vraiment la question centrale, la kurdicité, les droits pour les Kurdes, etc., qui était prioritaire à cette époque-là. Et il faut savoir que dans ces années-là, avant les années 90, non seulement pour l'organisation, la question de la présence des femmes, elle était un peu tabou, mais pour l'ensemble de la société kurde, c'était un phénomène inconnu, étrange, etc. Du coup, même les premières combattantes, quand ils les ont vues, c'était toujours un choc pour la société de les voir en armes, les femmes en armes, parce que traditionnellement et historiquement, au Kurdistan, les armes, c'était les hommes qui le portaient. Du coup, un homme en armes, c'était des héros quand on les entendait partout, on les voyait, ça existe dans l'imaginaire kurde, collectif, etc. Mais une femme en armes, c'était vraiment une nouvelle émergence. Du coup, c'est à partir de là où ça commence petit à petit de casser un peu les stéréotypes sur la division sexuelle de travail, etc. Du coup, on voit cette hésitation de la société, mais aussi de la part du mouvement, parce que de toute façon, c'était très difficile à la fois pour le mouvement et pour l'organisation, surtout à l'époque, et pour la société de voir les femmes éloignées de leur normative attribuée à leur sexe, c'est-à-dire la maternité, d'être à l'intérieur, à la maison, etc. Mais malgré ça, on voit que il y avait une partie des femmes qui ont adhéré au PKK dans la première phase, et c'était surtout les femmes éduquées de classe, on peut dire moyenne, et les femmes étudiantes. Du coup, les femmes qui étaient actives dans le mouvement étudiant. Du coup, au contraire de la deuxième phase où c'était plutôt les femmes de classe populaire moins éduquée, voilà, c'était...
Donc effectivement, tu identifies une deuxième phase, oui, que tu situes entre 1990, mmh, et 1999, donc tu commençais à évoquer un premier changement, donc c'est déjà sociologiquement, c'était plus forcément les mêmes femmes qui, oui, rejoignaient le parti.
Du coup, au niveau de profil sociologique, bien sûr, voilà, c'est la deuxième phase quand c'était vraiment l'engagement massif des femmes au sein de PKK après des années 90. Et c'est la première fois qu'on voit vraiment cette présence massive des femmes au sein d'un mouvement politique armé au Kurdistan. Et c'est d'ailleurs le point distinct de PKK par rapport au Komale ou des autres partis politiques kurdes, par exemple, qui existaient avant lui. Et dans cette deuxième phase, du coup, on voit que la question kurde, elle est toujours principale. Du coup, dans la première phase, par exemple, les femmes, elles adhéraient au mouvement plutôt en tant que kurde qu'en tant que femme. Dans la deuxième phase, elles commencent d'être, de partir dans la montagne et de rejoindre le parti du PKK à la fois en tant que femme et en tant que kurde. Mais c'est difficile à dire à quel point lequel c'était plus important. Mais pour les premières années des années 80, c'était encore la kurdicité qui était vraiment principale. Et dans cette deuxième phase, du coup, la première phase, c'était les femmes, elles essayaient de ressembler aux hommes, etc. La deuxième phase, elles essayaient de créer leur organisation autonome en non-mixité, les organisations des femmes, les armées des femmes, etc. Et là, elles changent un peu leur point de vue par rapport à la lutte armée aussi. Elles essayaient beaucoup moins d'être comme les femmes, comme les hommes. Elles essayaient de devenir les femmes héroïnes, etc. Et cette deuxième phase, c'était, il y avait trois élément déclencheur très important, c'était d'abord le soulèvement populaire, Salhaldan, ce qu'on appelle au Kurdistan, et ces soulèvements populaires, c'était vraiment contre la violence énorme de l'État, contre la population kurde dans les années 90, où le mouvement, il avait besoin de la participation de tout le monde, y compris les femmes. Du coup, il invite de tout le monde, toutes les Kurdes, quoi que ça soit, à rejoindre le mouvement. Et c'était aussi une porte ouverte pour les femmes, pour qu'elles puissent aussi rejoindre le mouvement. Et ils ne ratent pas ce moment important des femmes, ils rejoignent massivement. Et c'était la deuxième, le deuxième élément important, c'était les prisonniers politiques. Quand il y a un soulèvement, il y a beaucoup de prisonniers politiques aussi, c'est normal dans les pays autoritaires. Et là, il y avait la résistance des femmes au sein de prison, ça a beaucoup inspiré du coup des autres femmes qui étaient à l'extérieur pour qu'ils puissent aussi faire quelque chose pour le mouvement. Faire quelque chose, à l'époque, c'était quand il n'y avait pas beaucoup de possibilités politiques, c'était les possibilités armées plutôt. Du coup, l'accessibilité d'un mouvement armé dans un contexte où c'est plus possible de faire la politique, du coup, il a préparé le terrain pour que les femmes ils puissent rejoindre de plus en plus ce mouvement. Et troisième élément, c'était le travail quotidien des femmes combattantes qui ont commencé des années, à la fin des années 80, mais surtout des années 90, ils ont commencé de aller parler maison par maison, quartier par quartier, avec les femmes de classe populaire. C'était à l'époque les femmes rurales, les femmes dans les villages, etc., qui étaient vraiment, et les femmes paysans, des familles paysans, qui étaient la base principale du mouvement de PKK. Du coup, c'était, en fois, dans la deuxième phase, pour la première fois, on voit la sensibilisation, la politisation, et aussi une conscience des rapports sociaux de sexe parmi la population, mais surtout au sein de mouvements, du coup, parmi les combattantes. Ça, c'était vraiment les éléments différenciés par rapport à la première phase. Du coup, c'est dans la deuxième phase aussi, on voit la création des partis politiques. On voit la présence, par exemple, c'est la figure de Leyla Zana qui sort comme la première femme kurde élue au Parlement en Turquie, etc. Et c'est aussi, Leyla Zana, elle n'était pas la seule exemple. C'était les femmes qui ont devenu militantes, les femmes ordinaires qui, si on le dit comme ça, qui ont devenu des femmes militantes parce que en fait ils ont commencé à tout simplement de participer à travers de leur mari, de leurs proches, etc.
Tu identifies ensuite une troisième phase que tu situes de 1999 à aujourd'hui, et cette première phase donc 1999, date hautement symbolique pour les Kurdes, en lien avec leur un des leaders, j'ose pas dire le leader parce que voilà, ça n'a pas été le seul, Abdullah Öcalan. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en 1999 pour commencer?
Oui, du coup pour moi c'est la phase la plus importante, mais je pense que pour le mouvement non, c'est la deuxième phase qui a vraiment changé un peu le destin des femmes au sein du mouvement. Mais cette troisième période de mobilisation, elle a été marquée par la capture de Abdullah Öcalan, comme vous l'avez mentionné, qui était un leader, qui est toujours un leader charismatique et aussi l'idéologue de mouvement kurde du PKK aussi. Du coup, son arrestation, elle a conduit à la fois à une nouvelle vague de mobilisation d'un part. Du coup, il y a des femmes qui ont rejoint le mouvement juste après la rage qu'ils avaient après l'arrestation de leader du mouvement. Mais en même temps, son absence comme le soutien le plus important du mouvement kurde et des femmes combattantes, et elle a aussi marqué le mouvement féministe et elle a donné beaucoup d'inquiétude aux femmes combattantes. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une phase de crise à partir de son arrestation parce qu'ils pensent qu'ils deviennent un peu orphans et ils perdent leur, si on peut le dire, leur père ou leur soutien, etc., leur base. C'est parce qu'en fait, un des combattants, il m'a raconté comment à l'époque de Tasfiyeh, c'est ce qu'on appelle la période de Tasfiyeh, entre 2003 et 2007, il y a à peu près 4000 femmes combattantes qui ont quitté la Montagnie, qui ont juste quitté le mouvement, suite à la crise interne qui a été évoquée par l'arrestation de Öcalan. Parce qu'à l'époque, et cette troisième phase, c'était l'époque où les femmes, elles étaient vraiment puissantes au sein du mouvement parce qu'ils ont pu créer leur organisation autonome de différentes manières, à la fois à l'échelle armée, civique, politique, au sein de la société aussi. Et là, ils avaient vraiment une base importante. Mais malgré ça, comme le Öcalan, il avait une place hyper importante au sein du mouvement pour surtout prendre les décisions stratégiques et politiques qui concernait les femmes parfois directement. Là, du coup, c'était une crise interne. Mais malgré ça, ils sont tenus, les femmes, et ils ont réussi de surmonter la crise. Et ils voulaient créer un parti de travailleuses, des femmes travailleuses de Kurdistan, c'est-à-dire un parti féministe parallèle de parti travailleur de Kurdistan, de PKK, c'est-à-dire avoir deux partis parallèles, un parti politique pour mix et un parti politique non mixte pour les femmes, quoi. Öcalan, il avait donné son accord avant l'arrestation dans les années 98. Mais malheureusement, à la phase où il voulait concrétiser cette décision, elle a été arrêtée. Et suite à son arrestation, après la crise de son arrestation, quand le mouvement il était dans une crise, il cherchait vraiment la cohérence plutôt, il cherchait l'unité que par exemple la division, etc. Et là, ils avaient très peur que ces deux partis politiques, ça peut diviser complètement le PKK. Je vous ai dit, il y avait 4000 déjà qui ont quitté, il y avait le frère de Öcalan qui voulait prendre sa place, etc. Du coup, dans ce contexte-là, le comité central, il a refusé la demande des femmes qui ont relancé pour créer leur parti politique autonome. Bon, ça a été très difficile. Je vais finalement des personnages comme Sakine Janses qui étaient à l'avant-garde de cette demande. Ils ont rasé avec elle et 19 femmes, ils ont rasé leurs cheveux comme un geste de contestation à cette décision de comité central qui était hyper important à mon avis. C'est vraiment un moment très important au sein du mouvement kurde qui montre aussi qu'il y a des conflits internes entre les hommes et les femmes. Ils sont tous combattants, mais pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes places. Et il y a aussi, du coup, c'est ce qu'ils appelaient, il y a un soulèvement dans la révolution kurde. C'est-à-dire, il y a un soulèvement féministe dans la révolution kurde, toujours qui existait, toujours. Mais à ce moment-là, on voit vraiment le niveau de conflit. Ils ont pas, finalement, le parti, on peut dire, il les a emprisonnés ou enfermés dans un lieu fermé dans la montagne pour un an. Il les a punis. Et après ça, Sakine Janses et des autres femmes, ils n'ont pas arrêté vraiment à continuer leur lutte. Ils n'ont pas réussi d'avoir un parti politique parallèle féministe, mais ils ont réussi d'avoir un parti autonome, c'est ce qu'ils appelaient le parti des femmes, à partir de 2004, au sein du mouvement du PKK. Et à ce moment-là, ils ont créé encore... Et à partir de ce moment-là, ils ont réussi de créer plus de structures, on peut dire, idéologiques aussi. Parce que jusque-là, ce que deux des combattants ils m'ont raconté, ils ont dit jusque-là, on était très dans la lutte armée, les femmes, ils puissent aussi faire la guerre, c'est pas que une tâche masculine, etc. Nous, on voulait montrer aussi notre force et on a réussi de le montrer. On avait des compositions féminines parallèles aux compositions mixtes, etc. On était complètement autonome. Et là, on a compris que maintenant, il nous fait aussi vraiment puissance idéologique. Donc, il faut beaucoup travailler pour avoir aussi une idéologie autonome au sein du mouvement. Et c'est à travers de là, en fait, il y a la généalogie, comme on peut dire, le discours féministe, ou le discours sur la cause des femmes enceintes de PKK. Il a été émergé en 2008, mais il a bien commencé la nécessité, le sentiment de, il faut être autonome idéologiquement aussi, ça a été bien commencé par les femmes. Bah, on en revient, mais c'est surtout un travail quotidien des femmes combattantes sur ces sujets-là qui a donné l'émergence de généalogie. Mais de toute façon, dans cette troisième phase, les plupart des combattants avec qui j'ai parlé, ils disaient qu'ils adhéraient au mouvement plutôt pour la cause féministe ou pour la cause des femmes. C'est-à-dire la sensibilisation et la conscience des rapports sociaux de sexe, il était plus important que la curdicité, même si la curdicité, elle est toujours là pour les plupart de combattantes.
Tu as évoqué le fait que l'emprisonnement de Öcalan était une source d'inquiétude pour les femmes. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du mouvement, ça peut sembler paradoxal parce qu'on pourrait se dire un leader masculin qui disparaît, c'est peut-être aussi la possibilité que d'autres leaders, et pourquoi pas des leaderes, des femmes, prennent la place. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Öcalan à cette époque-là était quelque part garant de cette position féministe, puisque en tant que leader du mouvement, il avait une posture clairement qu'on qualifierait aujourd'hui de féministe, et avec des écrits qui interrogent notamment la place du mariage, la nécessité de remettre en cause ce que lui, il a appelé l'homme dominant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'apport théorique des écrits de Öcalan par rapport à la question de la place des femmes ?
Oui, bien sûr. En fait, il y a sur la question de relation de Öcalan avec le mouvement de libération des femmes kurdes, il y a à la fois un lien idéologique, un lien, on peut dire, théorique sur la question des femmes, comme vous l'avez expliqué un peu, et un lien politique. Et le lien théorique, il commence bien après le lien politique. C'est-à-dire, et les deux, ils avancent en même temps et ils donnent en présence une place importante aux femmes. Bah, c'est ce que j'ai appelé dans un des articles que j'ai publié sur la relation entre le leader et les combattantes, les femmes combattantes au sein de PKK, c'est qu'il y avait toujours une relation mutuelle entre les femmes combattantes et le leader. D'un côté, c'est un leader charismatique, idéologue, qui parle de la question des femmes dans les années 80, même au sein des mouvements de gauche en Turquie, il n'y avait presque aucun parti politique qui s'intéressait à la question des femmes, à la cause des femmes. Du coup, c'était... Mais même à cette époque-là, du coup, c'était lui, il était un peu avant-garde pour parler de cette question. Les raisonnements, on en sait, c'est différencié, c'est pour différentes raisons, mais malgré les raisonnements divers et variés, il a réussi d'en parler. Et à travers de ça, il a pu créer une alliance importante avec les femmes combattantes au sein du mouvement. C'est-à-dire, d'un côté... Le leader Öcalan, il était le meilleur soutien des femmes combattantes. C'est à travers de lui qu'il pouvait plus ou moins imposer leurs revendications féministes, etc. Tout ce qu'ils ont boucré, c'était de certaine manière à travers de l'aide de Öcalan. Il ne faut pas oublier que le mouvement de libération des femmes kurdes, il a été émergé au sein de PKK dans le contexte d'une guerre de guérilla très masculiniste. C'est-à-dire, il y avait des pratiques virilistes, les discriminations sexistes, etc., qui caractérisaient vraiment le mouvement à l'époque. Même aujourd'hui, ça existe, mais beaucoup moins, bien sûr, avec la lutte des femmes. Dans ce contexte-là, c'était très difficile de convaincre toutes ces femmes, tous ces hommes armés, héroïnes, etc., de leur faire comprendre que, voilà, c'est la lutte des femmes, c'est importante aussi, la cause des femmes, c'est importante aussi, c'est pas juste la cause kurde, etc. Dans ce contexte-là, ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait le comprendre et les soutenir concrètement aussi. Du coup, ils ont créé une alliance. Et cela ne veut pas dire qu'ils ont créé les mêmes alliances avec des autres hommes de mouvement, parce qu'ils n'avaient pas la même tolérance par rapport des autres hommes. Mais avec le leader, ils ont réussi de faire ça. Ça, c'était du côté de soutien de leader, mais Öcalan aussi, il avait toujours les femmes comme ses meilleurs alliés au sein du mouvement. Et on voit... Bah, c'était déjà les femmes, c'était les on peut dire, les membres qui suivaient beaucoup plus ces enseignants idéologiques, ils étaient beaucoup plus fidèles aux idées de Öcalan que des autres, parce qu'ils voyaient certains, bah, de certains sorts, ils voyaient une reconnaissance de son soutien à travers de, aussi de fidélité à ses idées. Mais même au-delà de ça, par exemple, concrètement, ils ont soutenu Öcalan, par exemple, dans les années 99, après son arrestation. Du coup, il y avait une décision importante au sein de PKK où il fallait décider s'il reste le leader du mouvement. Malgré son arrestation, Öcalan, il reste le leader du mouvement ou non. Et à cette époque-là, les femmes, elles étaient parmi les seules qui ont dit oui, il faut qu'il reste notre leader. Ils ont soutenu, même en prison, de Öcalan, alors que les plupart des autres membres masculins, ils étaient contre. Par exemple, en même temps, on voit la réponse de Öcalan à ça. Par exemple, en 2012, quand il y avait une délégation des femmes pour les négociations de paix, quand il y avait une délégation de mouvement kurde qui allait voir Öcalan en prison, il n'y avait pas un représentant de mouvement des femmes et il a refusé la délégation, Öcalan. Il a dit il faut forcément quelqu'un, une représentante de mouvement féministe, bah, de mouvement des femmes. Sinon, je refuse de voir la délégation. Vous voyez, et ça continue.
Je rigole en même temps parce que tu me vois sourire, parce que c'est quelque chose que les féministes demandent de nos jours en disant à des hommes qui sont invités sur des plateaux 100% masculins de refuser les invitations si des femmes ne sont pas conviées à s'exprimer. Et là, je découvre en t'écoutant que c'est des choses que Öcalan a mis en œuvre dans un contexte terrible pour lui. C'est-à-dire qu'il était déjà emprisonné et il a refusé, alors qu'il en avait très peu, il a refusé des visites si des femmes n'étaient pas présentes.
Bah bien sûr. Du coup, ça montre ce que j'ai essayé de montrer aussi dans la thèse ou dans l'article que j'ai écrit. C'est beaucoup plus au-delà de l'instrumentalisation des femmes par un leader autoritaire, etc. C'est ce qu'on entend souvent parmi les gens qui ne voient pas la subjectivité des femmes, qui voient juste une organisation qui est une machine de guerre, qui a utilisé tout le monde, surtout les femmes, parce que genre, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de subjectivité, ils ne savent pas quoi, et qu'est-ce qu'ils font. Ils sont juste un instrument dans les mains des hommes qui gèrent le parti politique armé. On est très loin de ça dans le mouvement de PKK. Tout ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse, c'est pour te faire comprendre ça. On est vraiment dans un mouvement politique armé massif, hyper compliqué, où même la relation entre le leader charismatique et des femmes, c'était toujours mutuel, c'était un aller-retour. Et l'une, il enrichissait d'autres, alimentait d'autres, et il pouvait pas, le Öcalan, ses écritures, il pouvait pas avancer, il pouvait pas avoir cette place au sein de PKK sans le travail massif des femmes au sein de mouvement. Et l'ensemble des idées du PKK, l'ensemble de sa doctrine, son paradigme, il pouvait pas être si féministe, si écologique, s'il y avait pas vraiment l'intervention des femmes. Du coup, non seulement ils ont démocratisé l'ensemble du mouvement au niveau concret, politique, etc., ils ont démocratisé aussi la pensée de Öcalan, ils ont démocratisé la pensée, l'ensemble de pensée de PKK.
Tu l'évoquais déjà, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus sur la question des vocations, puisque tu évoquais le fait qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient motiver les femmes à rejoindre le PKK. Ce que tu évoquais, c'était le fait que les femmes prenaient conscience ou apprenaient comment résister les personnes membres du PKK qui avaient résisté suite à leur emprisonnement, et que ça, c'était une source d'inspiration qui pouvait les motiver à rejoindre le parti. Et dans ton écrit, dans Études Kurne, tu évoques d'autres raisons également, à savoir le fait que parfois des femmes s'engagent parce qu'elles ont perdu un proche qui a été assassiné par l'État turc, et également le fait que, et c'est cette partie-là qui va plus particulièrement m'intéresser, le fait que des personnes rejoignent le mouvement parce qu'elles ont rencontré des personnes du PKK qui se rendaient dans les villages. Alors avec Fatemi Karimi, par exemple, on avait évoqué le fait que parfois les militantes et militants du Comélé venaient dans les villages et venaient aider notamment dans des conflits de couples et venaient porter une parole féministe pour venir résoudre les problématiques. Comment ça se passait pour le PKK quand il se rendait dans les villages? Qu'est-ce qui donnait envie aux femmes plus particulièrement de rejoindre le mouvement une fois qu'elles avaient rencontré des militantes et des militants du PKK dans leur village?
Oui, du coup, cette partie de ma thèse et de l'article aussi, elle a été écrite pour répondre à cette question importante. Comment c'est possible que dans une société patriarcale, d'ailleurs comme plusieurs sociétés, elle n'est pas la seule, la société kurde. Et comment c'est possible que dans ces sociétés, et surtout dans les années 80, 90, où la domination masculine était vraiment en question, pas très présent, quoi. Du coup, comment c'est possible que dans ces sociétés-là, on voit la présence massive des femmes en armes, mais aussi les revendications en faveur des femmes au sein d'un mouvement politique pour les Kurdes, pour la cause kurde? Comment c'est possible? Comment les femmes, ils peuvent avoir cette place importante au sein d'un mouvement dans une société patriarcale? Ça a commencé par là. Il faut voir comment les femmes, ils ont réussi à rejoindre la lutte armée qui était une porte complètement fermée pour les femmes. Jusque-là, on n'en avait pas. On avait juste quelques personnages exceptionnels dans l'histoire de Kurdistan. Et d'un coup, comment c'est possible de faire rentrer toutes ces femmes non seulement au Kurdistan, dans le monde entier, la lutte armée, c'est toujours une lutte armée masculine, historiquement. C'est construit à travers des valeurs masculines et aussi à travers des présences de corps masculins. Et ça, c'est vraiment, du coup, c'est ce qu'ils ont fait, les combattantes du PKK. Ils ont changé non seulement leur destin, le destin de leur sexe, le destin de leur, vraiment des autres femmes dans le monde entier pour dire que voilà, non seulement notre corps, il peut être présent, mais aussi on peut changer toute cette division sexuelle de travail révolutionnaire, etc., qui existe. Mais comment c'était possible? Du coup, il y avait des différents éléments. Je cite juste les facteurs importants et après je reviens sur cette question que vous avez posée qui est assez importante. Du coup, il y avait les effets mobilisateurs, surtout d'un discours égalitaire, qui a commencé dans les années 80 de la part de leaders, on en a parlé, qui a beaucoup motivé les femmes pour rejoindre le PKK comme une zone de libération par rapport de la société patriarcale kurde où ils se voyaient complètement parfois emprisonnés. Même par exemple, j'avais des combattants qui disaient, moi je voulais être médecin, je voulais être prof, mais c'était pas possible. Mes parents, ils me laissaient pas d'aller faire des études supérieures au sein de l'université. Voilà, si c'est pas possible de partir à l'université, tu vas partir dans la montagne, la zone de libération de sexe, etc. Du coup, ça a diffusé ce discours égalitaire et ça a impacté vraiment, ça a motivé les femmes. Mais on a aussi la création, on peut dire la construction de la figure de guérilla à travers le temps au sein du mouvement kurde. Du coup, cette figure féminine, elle était très attrayante dans une guerre masculine très effrayante et très violente. Du coup, cette figure, elle a donné la conscience en soi aux femmes pour qu'ils puissent cette fois-ci de voir, nous, on peut avoir aussi, on peut être valorisée en tant que femme combattante et femme en armes. De voir une femme en armes. Pour certains, du coup, il y avait des combattants qui me disaient le seul élément de me voir en armes comme une femme puissante qui peut dire non, qui peut agir de certaines manières, de manière efficace, ça me suffisait. Du coup, moi, je me suis dit, voilà, je pars dans la montagne pour devenir vraiment une femme efficace. Vous voyez, du coup, l'image de femme guérilla, il a beaucoup impacté. Du coup, la conscience est des femmes pour partir dans la montagne. Mais c'était aussi pour se libérer, le fait de rejoindre le mouvement kurde, c'était aussi pour se libérer de la famille et de la communauté patriarcale. Et c'est là, du coup, où on voit que le travail quotidien des femmes combattantes y était hyper important. Parce qu'ils venaient. C'était en fait une méthode maoïste de l'époque. De PKK, au départ, il était maoïste. Il était dans les stratégies et les pensées maoïstes. Et c'est une tradition maoïste qui existe toujours au sein de PKK, même aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir un discours anti-élitiste, de pouvoir aller parler avec les paysans, ce qu'ils disaient à l'époque les maoïstes, mais toujours la traduction de paysans de l'époque, c'est aujourd'hui la classe populaire, de pouvoir aller les femmes de classe populaire, les femmes moins éduquées, très peu éduquées, les femmes qui ont une charge familiale importante, etc., qui ont de classes défavorisées, tout simplement, qu'on puisse aller les voir, de parler avec elles, de les aider pour qu'ils puissent aussi avoir la conscience des rapports sociaux de genre, des hiérarchies qui existent, etc. Et là, c'est un travail qui a été fait depuis 40 ans, vraiment, qui n'a pas été cessé pour une minute au sein du mouvement kurde. Et je pense que une partie de la force de ce mouvement populaire, ça vient de là. Parce que quand on voit le travail quotidien des combattantes dans les villages qui étaient proches, de manière clandestine, mais pas que, des militantes qui sont, de certaine manière, un médiateur entre les combattantes et les femmes de classe populaire dans les villes ou dans les villages. Du coup, on voit, c'est aller-retour entre ces trois catégories des femmes qui, finalement, qui créent une alliance très forte entre elles. Et la confiance, la conscience de gens, etc. Et ça a donné beaucoup de, je pense, ça a donné beaucoup de choses. C'est-à-dire, la question de violence faite aux femmes, c'était une question principale, non seulement pour les combattantes, pour les militantes. Et on voit beaucoup de textes au sein de mouvements, beaucoup de formations idéologiques qui est autour de la question de violence faite aux femmes. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on parle beaucoup d'autodéfense, non seulement en tant que combattante, dans les montagnes et dans les maquis, mais aussi en tant que femme au sein de la famille. Du coup, ils apprennent aux femmes de pouvoir se défendre à n'importe quel moment de la vie face à la domination masculine. Ça peut être au lieu de travail, ça peut être dans les partis politiques où il y avait une grande lutte des femmes militantes kurdes contre la masculinité de ces partis politiques kurdes qui adhéraient aux valeurs du moment, mais qu'ils avaient de mal à les appliquer dans la réalité. Et du coup, ces femmes, finalement, ce travail quotidien, il a pu changer vraiment les hiérarchies, l'imaginaire de sexe. Qu'est-ce que c'est la féminité, la masculinité? Qu'est-ce que c'est le fait d'être une femme, être un homme? Du coup, vous allez au Bakour, le Kurdistan en Turquie. Vous voyez que ce discours, c'est pas juste parmi les militants. Vous voyez ce discours où les femmes, ils sont puissants, ils peuvent tout faire, on n'a pas besoin des hommes, on est autonome, on est dans l'autodéfense, on laisse pas les hommes de nous faire chier. S'il y a quelqu'un qui est embêté par un homme, on va l'aider collectivement. Il y a tous ces éléments, on les entend dans la bouche des femmes de classe populaire qui ont parfois 7 enfants, 5 enfants, qui n'ont jamais été à l'école ou qui étaient très peu à l'école, qui savent même pas écrire, par exemple, en langue kurde, turque, etc. Vous voyez? Du coup, et d'ailleurs, par exemple, on voit parfois à Mardin, il y avait une femme qui était élue il y a quelques années, où il y avait plusieurs enfants, plus de 7 enfants, et était jamais éduqué. Mais il était élu, et il est venu en Europe aussi en délégation pour parler de la cause des femmes et la cause de kurde, vous voyez, en tant que représentante de mouvement kurde. C'est ça la puissance du mouvement kurde. Mais il y avait des autres éléments, peut-être on en parlera dans un autre moment, mais j'aimerais bien de le mentionner rapidement. C'est l'économie émotionnelle et morale de l'engagement, c'est-à-dire la rage, la haine, le sentiment de revengeance, etc. Ça, c'était très puissant aussi au sein de mouvements. Quand on voit notre père qui est arrêté, notre frère qui a été tué, notre sœur qui est dans la montagne, on peut pas juste rester tranquille sans rien faire. Du coup, ces sentiments, ces émotions liées à la guerre, à la condition de conflit, c'est le PKK, c'était sa victoire, c'est qu'il a pu mobiliser tous ses sentiments, toutes ses émotions en faveur d'une cause sacrée qui est la cause féministe, la cause kurde. Et quand c'était le seul parti politique disponible pour ces femmes, et comme les féministes turques, avec leur discours très centraliste, nationaliste, ils n'ont pas pu, du coup, mobiliser les femmes kurdes, finalement, c'est le mouvement kurde qui a pu plus donner cette possibilité de mobilisation, aussi d'engagement aux femmes que le mouvement féministe, par exemple, en Turquie.
Alors, une des choses importantes qui distingue le PKK du Comélé, c'est que les relations sexuelles et amoureuses y sont parfaitement proscrites. Ce que tu expliques bien dans tes écrits, c'est que paradoxalement, on pourrait s'imaginer que cet interdit pose un nouveau contrôle sur les corps des femmes. Et toi, ce que tu dis, ce que tu analyses, c'est que au contraire, cet interdit vient protéger les femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
En fait, c'est ce que j'ai essayé de écrire. C'est pas que protéger des femmes, mais c'est aussi en même temps contrôler. Du coup, c'est contradictoire. J'explique dans quel sens c'est contradictoire. Et c'est d'ailleurs le point délicat, je pense, du mouvement kurde, parce que en fait, il y a des règles, il y a des normes sur le contrôle des relations sexuelles qui n'ont pas changé depuis la fondation du PKK, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, qui est quand même un peu étonnant dans un mouvement qui est très dynamique, qui est en train de changement permanent, etc. Et du coup, on est dans une situation de violence politique, de guerre, et dans cette situation-là, au Kurdistan, comme partout, au sein du PKK, comme dans les plusieurs partis révolutionnaires, les relations sexuelles, elles peuvent être assouplies, renforcées, bouleversées, modifiées, transgressées, etc. C'est le moment vraiment pour changer, pour contrôler ou pour modifier ces genres de relations. Et qu'est-ce qu'il fait? Le PKK, il décide tout simplement de faire rentrer les femmes à la condition qu'ils puissent, du coup, contrôler leur rapport sexuel. C'est-à-dire, avant, c'était à la famille patriarcale de la société kurde de contrôler ça, et surtout au même masculin de cette famille patriarcale. Et le PKK, il accepte de remplacer cette famille, de devenir la nouvelle famille encore, on peut dire, puissance qui peut contrôler toujours la sexualité des femmes, mais avec plus de légitimité et avec un discours révolutionnaire. Et dans un contexte de conflit et de guerre. Et la réussite aussi de gagner la confiance des familles patriarcales kurdes. Comment un père patriarcal, on peut dire masculiniste, il va laisser sa fille de, je veux dire, 18 ans, de partir dans la montagne et vivre avec les hommes combattants dans une pensée, on peut dire, traditionnelle, masculiniste de la société. C'était pas possible. Le PKK, il a gagné cette confiance en les assurant, les garantit, voilà, le contrôle de sexualité des femmes. Et c'est ce que j'ai essayé de écrire, c'était que finalement, c'était pour contrôler la mixité au sein du mouvement. C'est-à-dire, il y a non seulement le PKK, dans les partis politiques en Amérique du Sud, par exemple, en Inde, on voit la même situation, c'est-à-dire le contrôle de la mixité au sein des partis armés, c'est très difficile. Parce qu'il y a plusieurs questions qui peuvent émerger. Par exemple, il y a le travail de Jules Falqué sur les femmes combattantes salvadoriennes qui nous montre, et le travail de Fatemé Karimi, comme vous l'avez mentionné, qui nous montre aussi que la question de maternité au sein du mouvement révolutionnaire, c'est une question importante. C'est-à-dire, on peut avoir les viols forcés, on peut avoir les enfants qui ont été nés dans la montagne, qui n'ont pas forcément des parents qui peuvent se couper d'eux. On est dans une condition de vie assez difficile, déjà pour les combattants, et imaginons pour les enfants. On n'est pas dans la vie normale. Et du coup, il y a des partis politiques où ils interdisent les relations sexuelles et le mariage et tout, comme le PKK le fait. Mais il y en a qui, par exemple, autorisent les relations sexuelles, mais pas le mariage. Il y en a qui autorisent le mariage, comme le PKK, vous voyez, le Komalé, pardon. Vous voyez, mais il y a des conséquences. Fatemé Karimi le montre dans sa thèse. Les femmes, ils ont subi vraiment mal cette situation. Et Jules Falqué le montre aussi au Salvador. Les femmes, ils ont subi très mal, finalement, cette liberté, on peut dire. Parce que c'est en soi ces contradictions, parce que c'est le contexte de guerre, c'est le contexte de conflit qui est plus puissant finalement que la décision individuelle des hommes ou des femmes combattants ou même d'organisation. C'était pour ces raisons-là, finalement, il nous semble assez logique, mais contradictoire. C'est-à-dire, on est dans un mouvement qui se déclare, qui se qualifie féministe, qui est d'ailleurs vraiment dans les revendications, dans les pratiques, etc., qui est féministe, mais sur la question de sexualité, assez fermée. Non seulement les pratiques du mouvement n'ont pas beaucoup changé, on voit parfois des comportements assez fermés, de contrôle, même des militantes, par exemple, qui ne s'habillent pas très librement quand ils ont certains attachements au mouvement, parce qu'ils pensent que c'est mal vu dans la société, du coup c'est mal vu aussi au sein du mouvement. Vous voyez, du coup le mouvement, il n'a pas pu vraiment avancer sur cette question comme il a avancé sur des autres. Et finalement, on voit que la société, comme je vous ai dit, c'est un mouvement, parce que les adhérents du mouvement au sein de la société, les militants féministes, les femmes tout simplement, les étudiants, etc., ils sont beaucoup plus avancés sur la question de relations sexuelles, etc., que parfois les militants experts, c'est ce qu'on appelle les militants experts du PKK. Du coup, ça reste vraiment un point délicat. Et il faut savoir que c'est ce que j'ai écrit dans l'article et dans la thèse aussi, c'est plutôt les femmes qui sont contrôlées que les hommes. Du coup, il y a l'interdiction, c'est pour les deux sexes, mais finalement, c'est plutôt le corps des femmes qui est contrôlé que le corps des hommes. C'est les femmes qui s'habillent comme les hommes, c'est les femmes qui se comportent comme les hommes, c'est les femmes qui peuvent pas se nager, par exemple, librement, alors que les hommes, ils peuvent, vous voyez, dans la montagne. Il y a plusieurs éléments qui nous montrent, finalement, c'est plutôt le corps des femmes qui est contrôlé que les corps des hommes au sein de mouvements.
Et effectivement, tu emploies cette terminologie, tu dis que les corps des femmes doivent être désexualisés.
Du coup, voilà. C'est finalement, ils peuvent rentrer dans le mouvement massif, le mouvement. Ils peuvent rentrer dans le mouvement kurde et surtout dans la lutte armée, qui est un espace complètement masculin jusque-là, mais à la condition qu'ils acceptent la désexualisation de leur corps. C'est-à-dire, ça leur coûte très cher, finalement, cet engagement et ces changements, ces bouleversements des rôles stéréotypés, etc. Et aussi de transgression de la division sexuelle de travail révolutionnaire, de changer cette division, les hommes protecteurs dans la guerre, dans le conflit, et les femmes victimes qui subissent vraiment la guerre en tant que victimes. Là, ils ont changé cette division. Les femmes, ils sont à la fois, on peut dire, agresseurs, protectrices, etc., tout, et les hommes, ils peuvent aussi être victimes. Du coup, ils ont changé, mais à la condition qu'ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas avoir les relations sexuelles, même les relations amoureuses. Ça, c'est vraiment rare. Le PKK, c'est parmi les organisations rares, exceptionnelles, qui n'autorisent même pas les relations amoureuses, du coup, au sein de ses membres. Et aussi, il faut voir qu'il y a finalement, j'ai compris à travers de mes entretiens, il y a des femmes qui ont quitté le mouvement. Du coup, on voit les désengagement d'une partie des femmes au sein du mouvement, juste pour devenir une mère, par exemple, pour la volonté d'avoir un enfant, ou la volonté d'avoir juste une relation sexuelle ou amoureuse simple avec quelqu'un.
Tu l'évoquais précédemment, à savoir le fait que le gouvernement turc cherche vraiment à dépeindre les Kurdes comme des Turcs des montagnes, comme des personnes arriérées, et que finalement ce rattachement, cet engagement féministe permettait aussi de contrer l'image que les Turcs essayaient d'apposer sur les Kurdes. Est-ce que tu peux nous dire comment cet engagement féministe participe vraiment du fait que le mouvement kurde maintenant est quand même relativement bien identifié comme un mouvement progressiste?
Oui, ça c'était un élément important pour voir pourquoi finalement c'était pas le mouvement féministe qui a pu mobiliser les femmes kurdes. C'est plutôt un mouvement armé au départ masculiniste qui a pu mobiliser les femmes kurdes. Du coup, c'était vraiment lié à la fois de l'idéologie de l'État-nation qui a été créée au début du XXe siècle en Turquie, qui était basé sur une image, une ségrégation de la société, c'est-à-dire les Turcs avancés, modernes, progressistes, etc., qui étaient en partie représentés par l'image des femmes, c'est-à-dire les femmes éduquées, les femmes qui savent grandir les enfants dans les valeurs républicaines, etc. Et de l'autre côté, du coup, il y avait des arriérés, des villageoises, de populations rurales qui n'avaient pas qui n'avaient pas l'éducation, qui n'avaient pas aussi, comment je peux expliquer, qui étaient considérés comme arriérés culturellement et politiquement, ils étaient considérés comme dangereux pour la civilisation turque, qui n'étaient pas civilisés non plus. Du coup, cette image, ça existe au niveau mondial aussi. Ça existe entre les pays du Nord, les pays du Sud. Et là, on voit la reproduction de cette image colonialiste de manière nationale. Et c'était une réaction à ça, même la création du mouvement kurde, c'était une réponse à cette image manipulée, du coup, de société kurde, pour montrer que finalement que le PKK, il a donné cet espace aux femmes, non seulement pour avoir un mouvement de masse qui était nécessaire à l'époque, pour le PKK, mais aussi pour montrer aux autres partis de gauche de la Turquie qu'on est plus progressiste que vous. Finalement, on donne plus la place aux femmes que vous. Nous, on ne reproduit pas, du coup, on reproduit pas cette image déformée de mouvement kurde. Et ça, c'était important parce que finalement, le mouvement kurde, elle a réussi de changer cette image. Comment elle a réussi? Elle a montré que finalement, un mouvement en population kurde minoritaire, etc., il peut être plus progressiste que des autres partis de gauche en Turquie et même sur certains points, plus avancé que le mouvement féministe en Turquie. Et là, ça a divisé pour certains années.
Et j'ai presque envie de te dire, même plus qu'en Europe, parce que oui. Un mouvement politique qui accepte que de manière constante, il y ait un espace en non-mixité, moi, j'en connais pas d'autres.
Oui, il y avait la question de non-mixité féminine qui a donné vraiment beaucoup de possibilités aux femmes pour qu'elles puissent avancer leurs revendications féministes. Bah, ce qui n'existait pas pour la plupart des partis politiques de gauche en Turquie. Ils avaient juste une petite branche pour les femmes, etc. Même ça, ça a été souvent contrôlé par l'ensemble de mouvements ou par le comité central de partis politiques de gauche, etc. Du coup, c'était en fait surtout à travers des partis politiques kurdes qu'on le voit. La présence massive des femmes militantes dans ces partis politiques, elle a changé non seulement... Elle a féminisé l'espace kurde, elle a féminisé l'espace politique du pays. Elle a changé la composition sexuelle, en fait, et sexuée de la Turquie. Et ça, c'est hyper important. On voit à travers des chiffres, on voit à travers de discours, on voit à travers de tout ce qu'ils ont proposé au Parlement, aux autres structures nationales en faveur des femmes. Du coup, le mouvement kurde, il a pu changer complètement cette image des femmes arriéristes, etc., qui existaient, qui étaient d'ailleurs qui a légitimisé la violence de l'État pour des années dans le pays. Du coup, il accusait les féministes turques d'être en coalition avec un État violent, de rester soit silencieuse sur cette violence de l'État, soit être complice avec l'État sur cette violence, parce que tout simplement, pour une grande partie du mouvement féministe, malheureusement, là, ça a changé. Mais pour des années, pour une grande partie du mouvement féministe, les femmes kurdes, elles étaient terroristes aussi. Et tout ce qu'ils faisaient au sein du PKK, au sein du mouvement kurde, c'était pas des pratiques féministes. C'était que des pratiques soit dans la kurdicité, si on est très optimiste, ils disaient pas c'est terroriste, etc. Ils disaient, voilà, ça n'a rien à voir avec les pratiques féministes. Mais finalement, pour les femmes kurdes, c'était des pratiques féministes parce qu'on ne peut pas parler de la cause des femmes en les séparant. Du coup, de la violence de l'État et la vie quotidienne qui est complètement impactée par le conflit, la charge mentale, quotidienne, économique, politique des femmes qui devaient à la fois faire aller-retour entre le prison pour son mari, par exemple, pour son conjoint, et s'occuper des enfants toutes seules, travailler pour pouvoir les grandir et aussi s'occuper des dossiers administratifs, aller voir d'avocats, avoir un enfant qui est dans la montagne et qui a été blessé, par exemple, en attaque, etc. Ouais, je donne une image un peu caricaturale. Mais c'est vraiment la vérité aussi sur ce qu'ils subissaient en tant que femmes kurdes pour des années dans cette région qui était complètement ignorée par le mouvement féministe. C'est parce que finalement, ils ont perdu ce terrain et c'est le mouvement kurde qui a gagné vraiment la mobilisation de ces femmes.
Alors moi, j'ai trouvé cet entretien absolument passionnant. Malheureusement, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on échange, donc on va arriver à la fin de cet épisode. Donc moi, j'ai déjà envie de t'inviter pour la sortie de ton livre, pour qu'on puisse prolonger cet échange. Est-ce que pour finir, peut-être une dernière question, c'est que tu as cité un certain nombre de femmes, notamment Leyla Zana et Sakine Jansis. Est-ce que tu peux nous donner les noms d'autres femmes, ou peut-être nous dire quelques mots en plus sur ces femmes-là que je viens de citer, qui ont aussi vraiment servi de modèle et qui ont donné envie à des femmes de s'engager.
Oui, là j'ai cité, mais j'ai pas l'habitude de citer souvent les femmes, on va dire, les personnages héroïnes. Pour moi, en vrai, je viens d'une tradition féministe où ce sont les 99% des femmes, comme il disait, les féministes radicales, qui sont plus importantes. Je veux dire, bien sûr, Sakine Jansis, Leyla Zana, ils ont vraiment impacté l'ensemble du mouvement, l'imaginaire de société kurde sur ce qui est une femme kurde. Du coup, ils avaient beaucoup d'influence. Mais justement, ils avaient beaucoup d'influence parce que la société, elle était très patriarcale. Il est toujours et il n'est pas la seule. Mais il y a plusieurs femmes, bien sûr, qui ont donné vraiment la vie pour la cause des femmes au sein du mouvement. Du coup, les prisonniers politiques, énormément de femmes prisonniers politiques.
Alors c'est vrai que là, moi, j'ai cité des personnes qui sont connues pour leur engagement politique, mais c'est aussi la particularité du mouvement kurde, c'est de vraiment mettre en avant, comme tu le dis très bien, des femmes qui ont fait des choses plus ordinaires et qui, quand elles tombent martyres, sont honorées, reconnues, remémorées. Et ça, c'est très important comme tradition dans le mouvement kurde.
Tout à fait. Du coup, ça, c'est à la fois, c'est aussi un aspect contradictoire du mouvement parce que il a dans son discours, dans ses pratiques, il a cet intérêt pour donner vraiment beaucoup de place aux femmes héroïnes, de différentes manières. Et les femmes héroïnes, c'est surtout les femmes qui ont donné la vie, c'est-à-dire les femmes martyrs. J'ai un chapitre, une partie de ma thèse qui est concentrée sur les femmes martyrs, comme une image des femmes charismatiques, etc., au sein du PKK, qui est très important. Du coup, ils ont à la fois cet intérêt pour donner beaucoup de place à ces femmes-là, mais en même temps, dans la pratique, elles n'arrêtent pas vraiment aussi d'admirer les femmes de classe populaire, de classe défavorisée, qui lutte quotidiennement pour la cause des femmes et pour la kurdicité aussi. Mais c'est vrai que finalement, l'image des femmes héroïnes, elle est plus l'image de ces femmes héroïnes, elle a été beaucoup plus, on peut dire, publiée au sein du mouvement que des autres femmes. Et dans la pratique, c'est l'ensemble de ces femmes qui ont donné la possibilité d'exister un mouvement de libération des femmes kurdes qui est pour moi un mouvement vraiment exceptionnel dans la pratique, comme dans les idées, dans la pratique beaucoup plus que dans les idées peut-être, mais qui n'arrête pas aussi d'améliorer ses idées, d'avancer idéologiquement, etc., et qui est tout simplement un mouvement exceptionnel dans le monde entier. C'est un mouvement auquel on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est une source d'inspiration, non seulement pour nous en tant que femmes kurdes, mais aussi pour toutes les gens qui ont intéressé à savoir plus sur le lien entre le militantisme et le savoir, le lien entre les pratiques révolutionnaires et toutes ces contradictions qui existent pour les femmes révolutionnaires, surtout dans les régions comme Proche-Orient.
Alors, ce que tu viens de dire m'oblige à rajouter cette fois une question qui sera vraiment la dernière. Tu as parlé de la généalogie et de l'apport de ce que les femmes kurdes ont pu apporter à d'autres mouvements. Est-ce que tu peux déjà nous dire rapidement ce qu'est la généalogie et nous dire ce que la généalogie a apporté au mouvement féministe mondial?
Oui, c'est très difficile de dire qu'est-ce que c'est la généalogie dans quelques mots parce que...
Alors on aura un épisode dédié, je te rassure, mais oui, c'est, comme le mot n'est pas très connu malheureusement...
Oui, c'est bien d'en parler. D'ailleurs, dans ma thèse, c'est la moitié de ma thèse qui était sur la généalogie, juste on partait sur la pratique révolutionnaire des femmes kurdes. Mais la généalogie, c'est ce qu'on peut dire tout simplement, c'est la science des femmes, c'est ce qu'ils appellent la science des femmes, et c'est une alternative proposée par le mouvement kurde pour parler des rapports sociaux de sexe et la question de genre de manière locale, localisé au Kurdistan. C'est-à-dire, c'était une alternative par rapport au féminisme, qui est souvent utilisé en singulière, malheureusement, au sein du mouvement kurde, et qui est considéré comme un mouvement dépolitisé et comme un discours plutôt, on peut dire, libéral, qui défie pas forcément les forces de domination comme l'État-nation ou le capitalisme. Du coup, ils pensent que la généalogie, ça peut être une alternative pour les femmes kurdes dans la région, parce que là, ils s'appuient sur la mythologie kurde, ils s'appuient sur le mouvement des combattantes et l'histoire de militantisme des femmes combattantes kurdes dans la région kurde. Et ils utilisent bien sûr aussi de l'héritage de mouvements féministes dans le monde entier et l'héritage marxiste. Ils sont plus marxistes, mais l'héritage marxiste il est toujours très présent au sein de l'idéologie du PKK et surtout au sein du mouvement des femmes kurdes. Là, pour le mouvement des femmes, c'est vraiment les idées anticapitalistes, mais en mêlant avec un intérêt pour lutter contre l'État-nation comme source d'autoritarisme aussi. Et la généalogie, il parle beaucoup de science. Du coup, quelle science? Plutôt une science féminine que féministe, par exemple. Une science militante plutôt qu'universitaire. Vous voyez, il y a des dualités qui ont été émergées au sein de généalogie. Mais finalement, c'est une science très militante. C'est-à-dire ce qui a été émergé, qui a été développé par les militants et les combattantes, d'ailleurs, qui est en dialogue surtout avec les femmes militantes. Mais bien sûr que la généalogie au Rojava aujourd'hui, il rentre dans la société, il est enseigné à l'école, il est enseigné au sein des universités au Rojava. Il y a des formations de généalogie qui ont été organisées à la fois dans la montagne, mais aussi dans la société kurde au Bakour, en Turquie, mais aussi au Rojava, en Europe, au Bachour, au Rojhelat. Vous voyez, du coup, c'est vraiment partout ces formations de généalogie aujourd'hui. Mais à quel point ça a rentré dans la vie quotidienne des femmes? À quel point ça peut parler de la vie quotidienne des femmes? C'est ça qui était, du coup, un des points de discussion de ma thèse, que je pense que finalement, ça prend beaucoup de temps pour qu'ils puissent aussi avancer sur les questions sociales et pas juste politiques, et aussi être en dialogue avec les hiérarchies sociales historiquement construites au sein de la société, comment c'est construit ces hiérarchies sexuelles et comment on peut modifier ces rapports sociaux de sexe et sexuels aussi au sein de la société. Là, ça a beaucoup moins discuté au sein de la généalogie, mais je pense que c'est un travail, c'est ce qu'il disait, hein, c'est un travail en cours, et c'est vraiment ça. Et c'est aussi à travers de l'aide des autres militants, des autres féministes, où ils puissent aussi modifier et avancer de plus en plus ce discours local, militante, qui s'appelle la généalogie.
Eh bien, en guise de conclusion, j'ai envie de te dire que j'ai vraiment très très hâte de lire ta thèse, donc vivement la publication. En attendant cette publication, on peut rappeler que tu t'appelles Somaïe Rostampour, qu'on peut trouver un de tes articles dans Études kurdes dédiées aux questions de genre, et également sur Academia, où on peut trouver un certain nombre de tes articles. Et on peut te retrouver aussi dans différentes émissions, puisque tu es régulièrement conviée pour t'exprimer à la radio sur ce sujet. Et je me permets de terminer avec un petit mot de soutien pour le podcast Lutte Kurde. Voilà, on a à peu près 200 écoutes par épisode, alors c'est pas mal, mais voilà, on peut faire mieux. Et pour faire mieux, on a besoin de votre aide. Et notamment, les algorithmes fonctionnent beaucoup avec le fait que le podcast est partagé, que le podcast est noté avec des étoiles. Donc vraiment, ça nous aiderait beaucoup si, quelles que soient les plateformes de diffusion que vous utilisez pour écouter le podcast, vous puissiez mettre des petites étoiles, de préférence beaucoup. Voilà. Et voilà, ça pourra favoriser les algorithmes pour que le podcast soit proposé à des personnes qui n'ont pas forcément connaissance du sujet, qui vont pas forcément faire une recherche ciblée, mais qui pourraient tout à fait être intéressées par le sujet. Donc vraiment, on compte sur vous pour nous aider à faire connaître le podcast. Et puis on dit à très bientôt à Somaïe Rostampour pour la rencontrer une fois que la thèse sera enfin publiée, disponible, et qu'on pourra la lire dans son exhaustivité. Merci Somaïe.
Merci beaucoup, merci. Et je vais mettre 5 étoiles. Hein.
Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.